la victoire, ou alors les belles histoires, elles se font pas uniquement avec ce qui se passe en mer, mais avec ce qui se passe aussi à terre, et donc ça va être un élément important. Ouais.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix Rousse, le podcast de Benjamin Dutreux. Cet été, nous sommes de retour pour vous faire revivre The Ocean Race à travers 5 podcasts. Tous les samedis, découvrez un nouvel épisode. Pour ce premier épisode, nous allons répondre à 15 questions avec Benjamin pour mieux comprendre The Ocean Race. Pourquoi Benjamin, son bateau et son équipe sont partis pendant 6 mois traverser le monde ? Lors de cet épisode, nous avons rencontré quelques problèmes sonores, veuillez nous en excuser d'avance. Alors bonjour Benjamin, on va revenir ensemble sur 15 questions pour comprendre The Ocean Race. Est-ce que tu es prêt à y répondre ?
Bonjour Zoé, oui, je suis tout à fait prêt à répondre à tes questions.
Eh bien c'est parti. Alors en quelques mots, c'est quoi The Ocean Race et le parcours de cette édition ?
Eh bien The Ocean Race, c'est un tour du monde en équipage, donc 4 marins et 1 médiaman. Avec escale. On fait un peu le même parcours du Vendée Globe, mais on s'arrête un peu partout et c'est en équipage. Et donc le parcours, on est parti de Alicante en Espagne, ensuite on est allé au Cap Vert, ensuite on est allé à Cape Town, ensuite on est allé à Itajaï. Sur le parcours classique, on doit faire le tour de l'Antarctique pour aller jusqu'à Itajaï. Après on remonte jusqu'à Newport aux États-Unis. Ensuite on passe du côté européen pour la fin de la course. Avec Aarhus au Danemark, La Haye en Hollande et arrivé à Gênes en Italie après un tour d'Europe.
Pourquoi tu voulais y participer à The Ocean Race et quel était l'objectif ?
Bah, participer à cette course, déjà c'est une course internationale, reconnue dans le monde entier. On a souvent vu des images un peu dingues. Enfin, moi, depuis que je suis gamin, c'est vrai que c'est une course qui fait un peu rêver aussi. Et nous, participer à cette course, ça faisait aussi un peu partie de nos objectifs dans le but de préparer le Vendée Globe. On a récupéré un nouveau bateau l'année dernière qu'on a besoin de fiabiliser, d'apprendre, de comprendre ce bateau et puis de le faire évoluer en performance pour qu'on soit prêt pour le Vendée Globe. Et donc voilà, cette course c'était un test à grandeur réelle, voire plus, parce que c'est vrai qu'en équipage on tire sur le bateau à plus de 100% tout le temps. Donc l'objectif c'est qu'au retour de cette course, on ait un bateau sur lequel on sache exactement quels travaux on va faire pour qu'il soit parfaitement fiable pour le Vendée Globe et qu'on puisse en tirer un maximum de ses capacités.
Alors comment s'est formé GUI Environnement Team Europe et avec qui ?
Du coup, GUI Environnement Team Europe, GUI Environnement c'est notre projet avec l'écurie EOL Racing, du coup, donc notre équipe française qui se prépare pour des courses en solitaire ou en double. Et pour cette occasion, on s'est associé avec Offshore Team Germany, donc Team Europe sur le nom du bateau, tout simplement pour lier nos budgets déjà, tout simplement parce que c'est une course qui coûte cher et donc voilà, il fallait qu'on soit. Bah, il fallait qu'on ait les budgets nécessaires pour pouvoir y participer. Et donc Offshore Team Germany, c'est une équipe allemande avec laquelle j'avais déjà fait Ocean Race Europe il y a 2 ans.
Qu'est-ce qui change finalement par rapport à notre projet classique ? Il y a plus de monde dans l'équipe et des sponsors qui sont du coup différents.
Bah, il y a pas mal de choses qui changent par rapport à notre projet classique. Déjà, la structure de l'équipe, en effet, on est beaucoup plus nombreux parce qu'il y a aussi des nouveaux métiers. Là, on part tout autour du monde avec des escales. Il y a une dimension internationale, donc il y a différentes langues. Donc il faut pouvoir transcrire tous les communiqués en différentes langues. Donc niveau communication, c'est pareil, une partie plus importante. Et en plus, on a beaucoup plus de contenu parce qu'on a des médiaman à terre et en mer qui nous permettent de suivre l'aventure partout dans le monde. Et il faut aussi pouvoir répondre aux règles de la course. Il y a plus de marins. Donc la logistique est plus importante, donc la communication est plus importante. Et en plus de ça, on s'arrête un peu partout avec le bateau, donc avec des étapes techniques sur lesquelles on doit pouvoir préparer le bateau sur différentes étapes. Donc la partie technique est aussi super intense, parce que le bateau s'arrête sur des courtes périodes et doit repartir sur des étapes sur lesquelles on va tirer sur le bateau à 100%. Donc voilà, c'est tout ça fait que l'équipe doit être plus importante et c'est un challenge aussi. Technique à terre, un challenge d'équipe tout simplement, plutôt qu'un challenge uniquement sur la partie sportive, sur ce genre de course.
Au mois de décembre, après la route du Rhum, le bateau est allé directement en Espagne. convoyée par une partie de l'équipe navigante, pourquoi, alors que toutes les autres équipes sont parties directement à Alicante, nous sommes partis à Badalona, à côté de Barcelone, en Espagne?
Alors pourquoi est-ce qu'on est parti à Badalona plutôt qu'à Alicante? Parce que on voulait essayer de trouver un chantier qui soit fermé au cas où on ait des soucis techniques importants. Donc ça, c'était la majeure raison. Et après, parce que aussi les Allemands avaient des facilités déjà dans ce chantier-là à Badalona. On sait que eux là-bas sur place, ils avaient aussi des compétences techniques à nous apporter. Et donc du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait aller là-bas et qu'on allait avoir les infrastructures pour travailler efficacement sur le bateau rapidement.
Qu'est-ce qu'il fallait concrètement réparer, préparer ou changer sur le bateau pour passer en configuration équipage?
Concrètement, il fallait rajouter des bannettes, permettre de faire des changements de voile, ce qu'on appelle des pinnings, donc des changements de voile dans une autre voile, changer pas mal d'ergonomie, mettre le bateau à jour des règles de jauge, donc rajouter un bib, plomber un certain nombre de litres de gasoil, un certain nombre de litres d'eau, et puis surtout faire l'entretien en parallèle classique du bateau qui venait de faire deux transats quand même, plus la Vendée Arctique, etc. Donc, tout simplement réviser tous nos systèmes. Voilà, et puis surtout vérifier toute la pignonnerie de l'accastillage, les roulements, etc. Donc, ça faisait un chantier court mais intense.
Le 2 janvier, après un gros mois de chantier, le bateau est arrivé à Alicante pour le départ de The Ocean Race. Mais alors, ça ressemble à quoi un village de course de The Ocean Race?
Ça ressemble à quoi un village de course de The Ocean Race? Eh ben, c'est une bonne question. En gros, un village de course de The Ocean Race, c'est un village qui mélange un peu de culture, je dirais, parce qu'il y a aussi souvent pas mal de concerts, etc. Il y a un endroit assez convivial, sympa, des grands espaces dans lesquels on peut boire des coups, venir en famille ou venir entre potes. Après, il y a tout un village de... où il y a les sponsors de la course, etc., qui présentent leurs produits, voilà, avec beaucoup d'animation pour les enfants aussi. Il y a aussi un espace réservé à leur équipe Sustainability sur tous les aspects environnement, etc., où ils présentent justement beaucoup d'animations qui sont assez sympas sur comment fonctionne l'océan, etc. Donc voilà, c'est un village qui mélange beaucoup de convivialité pour pouvoir accueillir les familles, etc. Mais en gros, c'est un village comme ce qu'on peut voir sur le Vendée Globe ou la route du Rhum, mais en voilà sur chaque étape, quoi. Donc ça fait quand même pas mal de villages.
Pendant 2 semaines, c'était un gros rush pour tout préparer, mais aussi travailler à 40 et se découvrir. Comment ça s'est passé?
Écoute, c'était pas facile en effet, l'équipe a été nombreuse d'un coup, avec des cultures différentes, avec un langage qui est devenu l'anglais. Pour nous, c'est sûr que ça a été une grosse évolution, ça a été vraiment pas simple. Je pense qu'on a mis beaucoup de temps à être efficace, je pense qu'on a, voilà, il fallait prendre ses marques en fait, et on n'a jamais eu le temps de s'entraîner à prendre ses marques. Donc du coup, on est tous arrivés d'un coup à Alicante et c'était déjà parti, donc c'est vrai que... Ces semaines de village étaient assez intenses, mais en même temps pas simples, pour tout simplement que chacun prenne ses marques, etc.
C'était quoi, toi, ton état d'esprit pendant 2 semaines?
Eh ben moi, mon état d'esprit pendant ces 2 semaines, j'ai pas trop eu le temps d'y penser, j'étais un peu sous l'eau. J'avais 1000 trucs à gérer, notamment pour que ça se passe bien entre les équipes, etc. Et puis, il fallait aussi préparer le bateau, la nave... les obligations avec la course, les médias, ouais, c'était vraiment intense. Et donc, au final, les 2 semaines étaient vraiment très intenses. Je crois que j'ai même pas une journée pour aller me balader à Alicante, quoi.
Le 15 janvier, le départ de The Ocean Race est lancé. C'est vrai qu'il y a une émotion particulière, mais c'est aussi un espèce de grand show. Il y a de la musique, il y a une parade des skippers. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qu'a ressenti l'équipe à ce moment-là?
Oui, c'est sûr que c'était assez convivial. Le départ, c'était sympa. C'est un peu une grande fête, quoi, le jour du départ. C'est vrai que nous, on n'est pas habitués à ça. On est tous un peu discrets, les marins et tout. On fait gaffe. Et là, c'est vrai que c'était une grande fête foraine avec faire le spectacle, en fait, le show pour le public qui est là. Donc voilà, c'était assez sympa, finalement. Les émotions, c'était plutôt, on va prendre le départ d'un tour du monde, une course assez longue et tout. Après, moi, j'avais pas plus d'émotion que ça, quoi. C'était une étape qui allait durer 3-4 jours. On est 4 à bord. Voilà, je sais qu'il y avait pas mal de stress à bord du bateau, bah, parce qu'on allait quand même prendre des conditions qui allaient être assez sportives dès le début. Mais moi, j'étais plus stressé par les compétences qu'on allait pouvoir avoir avec l'équipage.
Alors, cette première étape, elle consiste à rejoindre le Cap-Vert, donc au départ d'Alicante. C'était quoi les particularités météorologiques et les particularités de cette étape?
Passé le détroit de Gibraltar, là on avait 40-50 nœuds de vent auprès, face au vent, dans des espaces qui sont petits, avec une mer en Méditerranée qui est très saccadée. Donc ça c'était un peu le point clé en fait. Et après c'était un grand portant pour aller jusqu'au Cap-Vert.
Comment s'est-elle déroulée, cette première étape?
Bah, ça s'est passé moyennement bien parce qu'on était plutôt bien, on avait pris la tête de la course pendant une période. Après on a mis du temps à trouver nos marques auprès. Moi j'étais hors car, j'ai pas beaucoup dormi, on avait des malades à bord. Quoi, moi j'en avais pas un très bon souvenir, je me rappelle avoir pété un câble sur cette étape bah, parce que j'étais un peu déçu qu'on soit vraiment pas au niveau. Et donc voilà, et je pense que c'était bien aussi de taper du poing sur la table et de dire qu'il fallait que bah, maintenant on arrive à trouver les solutions pour être au niveau, quoi.
Vous êtes arrivé au Cap-Vert, donc c'était le deuxième stopover. Il était beaucoup plus rapide que les autres. C'était quoi ses particularités?
Les particularités du stopover du Cap-Vert, c'était que l'équipe technique n'avait pas le droit de monter à bord. Donc en fait, c'était les marins qui devaient eux-mêmes réparer le bateau, bricoler le bateau pour pouvoir repartir sur la prochaine étape. C'était assez marrant parce que du coup, on avait des membres de l'équipe technique qui étaient là sur le ponton, les bras croisés et qui nous regardaient bah, réparer le bateau, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa et assez marrant. J'ai trouvé que ça permettait aussi d'impliquer l'équipe navigante.
4-5 jours après, donc très rapidement, le bateau est parti pour rejoindre Cape Town. C'était la première fois que tu laissais ton bateau tout seul, skippé par d'autres et navigué par d'autres personnes. Comment tu l'as vécu ce départ?
Comment je l'ai vécu? Bah, c'est bien, j'étais assez en confiance, sachant que Seb, c'est lui qui avait le plus navigué avec nous avant sur le bateau, donc j'étais pas trop. J'étais assez en confiance, quoi. Voilà, c'est juste que c'est vrai que c'est toujours dur de laisser partir son bateau. Et puis j'aime bien être en mer, j'aime bien naviguer. Donc c'est vrai que je me disais qu'il fallait que je me préserve surtout sur les prochaines étapes. Donc je me suis forcé à pas faire cette étape. Surtout pour l'équipe, quoi, en me disant, bah voilà, comme ça je serai meilleur pour la suite. Puis ouais, j'avais quand même fait la route du Rhum et tout avant. Voilà, ouais, c'est vrai que c'était dur de laisser son bateau. Disons qu'après coup, maintenant, en n'ayant pas fait toutes les étapes, c'est vrai que j'aurais bien fait cette étape.
Est-ce que tu peux me résumer ce premier mois de janvier? Tout ça s'est passé en un mois, en trois mots.
C'était une première expérience. Je crois qu'à ce moment-là, je me disais qu'on allait rentrer dans une autre course maintenant, un peu plus au large, voilà, des étapes plus longues. Et voilà, jusque-là, j'étais assez surpris. Les bateaux neufs étaient. Enfin, ils avaient zéro souci. Voilà, tout le monde était toujours en lice à 100%, donc on était tous à égalité. J'avais hâte de voir ce qui allait se passer sur la grande étape, quoi.
Et voilà, le dernier épisode est terminé. Merci d'avoir écouté La Voix Rousse. J'espère qu'il vous aura plu. Et rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode direction Cap Town.